Si vous avez vos Bibles, Philippiens et chapitre 1, Philippiens et chapitre 1, nous allons considérer surtout les versets 3 à 5, mais je veux commencer au début et lire jusqu'au verset 9. Philippiens chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Nous allons arrêter là. Notez s'il vous plaît dans le verset 3 que Paul remercie Dieu. Vous voyez ça? Il rend grâce à Dieu. Et toutes les fois que quelqu'un s'adresse à Dieu, soit pour lui remercier, soit pour lui demander quelque chose, on l'appelle quoi? On appelle la prière, n'est-ce pas? C'est la prière. Donc, on pourrait dire que le sujet ici, c'est la prière de Paul. Et c'est confirmé dans le verset 4. Regardez le verset 4. « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. » Ainsi, le sujet de ce texte est manifestement la prière. Et je veux que vous lisiez rapidement, commençons au verset 3, pour découvrir où ce sujet de prière termine. D'accord? Parce qu'on veut connaître le fil de la pensée ici. Donc regardez le verset 3, le verset 4, le verset 5. Notez par exemple le verset 9. Est-ce que le sujet de la prière continue? Oui. Notez maintenant le verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé... Alors quel est un autre mot pour ce qui m'est arrivé? Mais quoi? Mes circonstances. N'est-ce pas? C'est ce qui m'est arrivé, mes circonstances. Donc, dans le verset 12, Paul commence à parler de ses circonstances. Et j'espère que vous avez une Bible qui marque les divisions de paragraphes pour préciser les divisions dans la pensée de Paul. Il commence une autre pensée dans le verset 12. Il va parler de ce qui lui est arrivé, de ses circonstances. Si vous voulez créer un plan de ce livre, vous pouvez marquer les versets 1 et les versets 2 simplement comme la salutation. C'est Paul et Timothée, ils saluent les églises de Philippe. Et puis du verset 3 jusqu'au verset 11, vous avez la prière de Paul pour les Philippiens. La prière de Paul pour les Philippiens. Ça, ce serait le titre général pour tous ces versets, mais nous avons besoin de le subdiviser encore plus. Donc regardez le verset 9 maintenant. Il dit dans le verset 9, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que... » Et puis il va nous dire ce que c'est. Vous savez que vous pouvez apprendre beaucoup d'une personne en écoutant les prières de cette personne, de cet homme ou de cette femme. Les prières d'un homme vous indiquent quelque chose de sa maturité spirituelle, et nous savons que Paul était un homme de prière. Est-ce que vous avez jamais posé la question, mais qu'est-ce que Paul faisait quand il entrait dans sa chambre, tout seul, pour prier devant Dieu, pour se mettre à genoux, pour prier devant Dieu, qu'est-ce qu'il disait à Dieu? Qu'a-t-il dit exactement dans ses prières? Eh bien, ici, nous l'avons. Regardez-le encore. Ce que je demande dans mes prières, c'est que... Et alors, ce qui suit, c'est le contenu de ses prières. Nous l'avons là depuis le verset 9 jusqu'à verset 11, le contenu de ses prières. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance, en pleine intelligence. Il a toute une liste là qui suit. Donc, je signale cela pour vous montrer le fil de la lettre. D'accord? Paul parle de la prière, spécifiquement sa vie de prière pour les Philippiens. Dans les versets 9 à 11, à la fin du paragraphe, il leur dit exactement ce que c'est qu'ils prient, pourquoi ils prient. Mais il commence ce paragraphe, pas en leur donnant le contenu de sa prière, mais l'attitude, son attitude, ou si vous voulez, son état d'esprit dans la prière, ou même l'ambiance de ses prières. C'était quoi son état d'esprit quand il se mettait à genoux pour prier pour les Philippiens? Il se sentait comment? C'était quoi son attitude ou son état d'esprit? Et donc avant de regarder ces versets, je veux un peu expliquer ce que je veux dire. Vous savez que même le souvenir de certaines personnes peut vous rendre triste ou content. Quand je pense à certaines personnes, ça affecte même mon humeur. Et ça me rend triste, comme si une ombre passait au-dessus de moi. Et des fois, je me trouve en train de dire simplement, « Ô Seigneur, aie pitié, ô Seigneur, montre ta grâce. » Et j'espère que nous essayons de cultiver même cette attitude de prière, de prendre devant le trône de Dieu des personnes qui viennent à l'esprit. Parce que des fois, c'est pendant la nuit, Dieu amène quelqu'un à l'esprit, ou nous pensons à quelque chose et ça amène quelqu'un d'autre à l'esprit, que nous pouvons prendre cette personne dans la prière devant Dieu pour au moins demander, comme on a dit la semaine passée, la grâce et la paix de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui, quand vous priez pour eux, votre cœur devient très lourd et triste, peut-être même que ça vous porte aux larmes. Et Paul connaissait ces émotions. Regardez par exemple le chapitre 3 et le verset 18, où il dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en quoi ?» En pleurant. Donc Paul savait ce que c'est, il pensait de certaines personnes, ils étaient ennemis de la croix de Christ, quand il pensait à eux, quand il priait pour eux, c'était en pleurant. Et alors les Corinthiens, vous savez un peu l'image de l'église à Corinthe. Il y avait tant de problèmes, Paul leur dit dans 2 Corinthiens, il dit, c'est dans une grande affliction, c'est le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous écris. Vous voyez ça, c'est avec beaucoup de larmes que je vous écris. Paul savait ce que c'est d'être porté aux larmes. Mais dans les versets 3 et 4 de Philippiens, nous voyons l'état d'esprit de Paul dans ses prières. Quand il priait pour les Philippiens, ce n'était pas avec des larmes. Et voyez si vous pouvez trouver, regardez votre Bible, voyez si vous pouvez trouver les deux mots qui décrivent son attitude, son esprit ou son humeur dans la prière. Dans le verset 3, c'est les mots « Je rends grâce ». Vous voyez ça? Et puis dans le verset 5, c'est quel mot? C'est le mot joie. Vous pouvez souligner ces deux mots parce qu'ils décrivent l'état d'esprit de Paul dans la prière. Ainsi, les prières de Paul pour les Philippiens étaient marquées par deux choses. La gratitude d'une part et la joie de l'autre part. Je rends grâce, verset 3, à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Chaque fois que Paul pensait aux Philippiens, qu'est-ce qu'il faisait? Il rendait grâce à Dieu. Vous voyez ça? Les prières de Paul pour les Philippiens étaient marquées par la gratitude pour eux. Plein de gratitude. Et juste pour faire une remarque à côté, est-ce que vous savez que la gratitude est une manière prescrite par la Bible pour cultiver une vie de prière? Et pourquoi ça? Parce qu'une personne qui est reconnaissante est une personne qui est toujours en train de remercier Dieu. Et ça, c'est la prière. Je vais vous lire le verset, vous n'avez pas besoin de chercher, mais ça se trouve en Colossiens chapitre 4 et verset 2. Et la Bible nous dit là, en Colossiens 4, 2, « Persévérez dans la prière, littéralement, consacrez-vous à la prière, veillez-y. » Et la question est comment? Comment veiller à la prière? Comment me consacrer à la prière? Voici la réponse. Avec action de grâce. C'est comme ça qu'on cultive une vie de prière. De se rappeler, de se lever le matin, de se coucher le soir et avant de vous endormir, de remercier Dieu pour la vie, pour des choses qui se sont passées, pour sa patience, pour son amour, pour Jésus-Christ, il y a tant de choses. Hein, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant combien le nombre en est grand, le chant nous dit. Et vous verrez aussi que ça va cultiver votre vie de prière. Il n'y a rien de plus salutaire à une vie de prière qu'un souvenir conscient des bénédictions de Dieu dans ma vie. Je crois que nous avons tous besoin de cultiver cette gratitude. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et c'est ce que Paul faisait chaque fois qu'il pensait aux Philippiens. Il remerciait Dieu. Donc, les enfants, écoutez-moi un moment. Est-ce que vous avez jamais adressé Dieu dans la prière pour remercier Dieu pour vos parents? Hein, est-ce que vous avez fait ça? Vous avez besoin de faire cela. Et voici Paul, et chaque fois qu'il pense à ces personnes, il dit, grâce soit rendue à Dieu. Oh, merci Dieu. Merci pour Lydie. Merci d'avoir délivré cette jeune fille de l'esclavage. Merci même de nous avoir mis en prison pour que le geôlier et sa famille puissent être sauvés. Merci Seigneur pour cette église. Merci pour leur amour envers moi. Oh Dieu, je te remercie pour toutes ces choses. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je pense de vous. Donc la prière de Paul dans le verset 3 est caractérisée par la gratitude. En effet, c'était sa gratitude qui inspirait même sa prière. Mais les versets 4 et 5 nous disent que sa prière était caractérisée par quoi? Ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma quoi? Vous êtes avec moi? Vous le voyez? Ma joie. Paul ne pouvait pas dire ceci de chaque église. Quand il écrit aux Galates, par exemple, juste après la salutation, il ne rend pas grâce à Dieu, il dit cela. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Je suis étonné. Mais quand il écrit aux Corinthiens, on l'a vu, il était en larmes, mais quand il prie pour les Philippiens, il prie avec joie. Je suis sûr qu'il y a des personnes ici que quand vous priez pour eux, c'est avec un cœur plein de joie. Même le souvenir de ces personnes vous remplit de joie. Aimeriez-vous être cette personne que quand d'autres personnes prient pour vous, ils le font avec un cœur plein de joie? Que quand le pasteur, ou dans ce cas l'apôtre, prie pour vous, ce serait avec joie s'il priait pour vous. Et aussi, de penser d'un autre côté, ça indique quelque chose concernant la prière pour autrui, quand on prie pour d'autres personnes. La prière n'est pas simplement « Oh, Dieu bénit mes amis, Dieu bénit l'église, Dieu bénit les missionnaires, etc. Dieu soit avec ceux qui sont malades, qui ont l'orteil cassé, je ne sais pas quoi, Dieu guérit tout le monde. » Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est d'entrer nous-mêmes avec tout notre cœur dans les besoins et dans les joies des autres. Une personne l'a mis comme ceci. Il a dit, la prière n'est pas simplement une liste de demandes, elle applique une participation dans la vie des autres, leur situation, leurs besoins, leurs triomphes, leurs échecs. Et le fait de porter toutes ces choses par l'intermédiaire de notre prière dans la présence de Dieu, la prière peut parfois faire payer un lourd tribut aux émotions et nous laisser sans force. Et parfois, ça nous rétablit et nous donne du baume au cœur. Dans les deux cas, la grande tâche d'intercéder pour les autres nécessite la participation de notre être entier. Voici la prière. Je participe avec mon être entier, avec tout mon cœur. Je suis plein de joie, je suis plein de tristesse, mais ça, c'est la vraie prière. Quand on prie pour nos enfants, quand on prie pour nos familles, notre famille, quand on prie pour nos amis, quand on prie pour notre église, nous devons y entrer dans la prière à fond avec tout notre cœur. C'est ce que Paul faisait. Et vous savez, quand les croyants deviennent égoïstes, orgueilleux ou vindicatifs, leur égocentrisme se manifeste toujours, dans un manque de prière pour les autres. On ne veut pas prier pour ceux qu'on n'aime pas. Notre manque de prière donc devient un signe de notre égocentrisme. Et peu, j'imagine, parmi nous-mêmes savent ce que c'est d'entrer dans les joies et dans les douleurs des autres par l'intermédiaire de la prière. On partage des requêtes, même le vendredi soir, le mardi soir, dans les réunions de prière, aux classes bibliques le dimanche. Mais est-ce que nous entrons vraiment dans la tristesse ou dans la joie des autres quand nous prions? Les versets 3 et 4 décrivent l'attitude ou l'état d'esprit de Paul dans la prière. C'est une attitude caractérisée par la gratitude et par la joie. Et la première question qui surgit à notre esprit quand on pense à la joie de Paul ou à la gratitude de Paul pour ces personnes, c'est la question pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tant de joie ? Pourquoi tant de gratitude ? Et la réponse est immédiatement apparente parce que dans les versets 5 et 6, Paul nous donne les raisons. Nous trouvons là les raisons pour son attitude, pour son état d'esprit dans la prière. Donc les versets 3 et 4 nous donnent l'état d'esprit de Paul dans la prière et le verset 5 à 8 nous donne les raisons pour une telle attitude. Les raisons d'une telle attitude. Les raisons pour sa prière plein de reconnaissance, plein de joie. Pourquoi était-il plein de joie et plein de reconnaissance? Donc, regardez vos Bibles, regardez le verset 3 encore. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de, voyez ça, ou en raison de. Donc, Paul n'est pas en train de prier pour ces choses. Il fait la demande avec joie en raison de ces choses, au sujet d'eux. Ici en verset 5, il exprime la cause, non pas le contenu de la prière de Paul. En fait, le verset 5 et 6 auraient pu avoir les mots « parce que » devant chaque verset. « Parce que » ou « à cause de ça » et verset 6 « à cause de ça » aussi. Donc Paul va nous donner au moins deux raisons pour sa prière reconnaissante, sa prière joyeuse pour les Philippiens. Et lisez-le avec moi. Commençons encore dans le verset 3. C'est ce que nous voulons savoir. Nous voulons connaître ce chapitre, hein, ce texte. Suivez le fil de la pensée. Regardez le verset 3 encore. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de ou en raison de, voilà, la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'est la première raison. Voici la seconde. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Donc, la première raison pour la joie et la gratitude de Paul a à faire avec son rapport avec les Philippiens, ça c'est le verset 5. Et la deuxième raison a à faire avec le rapport de Dieu avec les Philippiens. Vous voyez la différence ? Hein ? Regardez cette première raison. Verset 4, « Ne cessant dans toutes mes prières, pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez avec moi, comme nous allons le voir tout à l'heure, à l'évangile, ou, comme le Darby dit, à cause de la part que vous prenez à l'évangile. » Et puis, dans le verset 6, « Parce que Dieu a une certaine relation avec vous aussi, et ça, on le verra la semaine prochaine. » Mais regardez cette première raison. Ce mot traduit « la part », et ça c'est très important, d'accord ? Donc si vous êtes fatigué, revenez pour un instant, parce que si vous ne comprenez pas cette explication que je vais vous donner maintenant, vous n'allez pas suivre le reste du message. Je vais vous montrer ce mot, quand il dit « la part » ou « à cause de la part que vous prenez dans l'évangile », dans le verset 5, « de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez dans l'évangile ». Ça, c'est le mot en grec pour la communion. Si c'est votre Bible, vous pouvez marquer juste au-dessus de la part, vous pouvez mettre la communion. C'est le mot la communion. À cause de la communion que vous prenez à l'évangile. À cause de la communion que vous avez avec moi dans l'évangile. On parle des fois de la communion fraternelle. Alors, qu'est-ce que c'est la communion fraternelle? S'il fallait définir la communion, il serait probablement défini comme une activité verbale. On partage quelque chose ensemble verbalement. Mais c'est beaucoup plus que ça. Dans la Bible, on a ce même mot qui est trouvé en Actes chapitre 2. Et voyez si vous pouvez trouver le mot. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Si vous prenez le mot communion et vous enlevez les trois derniers lettres, vous avez le mot quoi ? Commun. C'est d'avoir quelque chose en commun. Et nous voyons que, effectivement, les chrétiens, en Actes chapitre 2, avaient combien de choses ? Ils avaient tout en commun. C'est-à-dire, ils partageaient tout. Ils avaient tout en commun. Le mot commun dans ce verset, c'est le mot grec koinos. Et le mot qui est traduit par part, et on a dit que c'était mieux le mot communion en Philippiens 1, verset 5, c'est le mot koinonia. Donc koinos, koinonia, c'est la même racine différentes formes du même mot pour la communion. C'est d'avoir quelque chose en commun. Je crois qu'on peut comprendre ça, même quand on parle de l'activité verbale. Donc, je veux que nous pensions à cette idée d'avoir quelque chose en commun. Ok, on va prendre une illustration banale. Il m'a souvent intrigué d'observer deux inconnus qui se rencontrent pour la première fois. Et après les salutations usuelles sont faites, ils recherchent vraiment le monde entier pour essayer de trouver quelque chose qu'ils ont en commun. Et des fois, c'est des recherches même drôles et rigolos. Voyez quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré avant. Et tout d'un coup, vous êtes en train de parler de votre arrière-grand-tante Martine, qui habite à Dax, dans les Landes. Et pourquoi est-ce que vous parlez de cette personne que vous connaissez à peine? Ah, c'est parce que l'autre monsieur, il a un cousin qui est marié à quelqu'un qui a une grand-mère qui aussi habite à Dax. Et donc, vous avez maintenant la ville de Dax en commun. Lui ne connaît pas trop la ville, vous ne connaissez pas trop la ville, ni ces personnes, mais vous avez trouvé quelque chose en commun. Et donc on entend une conversation entre deux inconnus d'une ville en France qui l'un de l'autre n'aime, peut-être ils n'aiment même pas, mais c'est quelque chose qu'ils ont en commun. C'est toujours comme ça entre les individus. Ils sont en train de parler des choses qu'ils ont en commun. Et Paul avait quelque chose en commun avec les Philippiens. Il dit qu'il avait une communion. Il y avait quelque chose qu'ils appréciaient tous les deux depuis le premier jour. Vous voyez ça dans verset 5 ? Depuis le premier jour. Pensez pendant un moment à ce premier jour, quand Paul est arrivé à Philippe. Vous connaissez, vous pouvez lire plus tard l'histoire dans Actes chapitre 16. Mais Paul arrive, il se rend au fleuve, en dehors de la ville, pour prêcher aux femmes qui sont rassemblées. Et pensez à toutes les choses qu'il n'avait pas en commun, qu'il ne partageait pas en commun. Il n'avait pas en commun l'emploi. Paul, fabricateur de tentes, Lydie était marchande de pourpre. Un autre était un geôlier, donc fonctionnaire pour le gouvernement. Et l'autre avait été clairvoyante. Donc c'est vraiment des emplois différents. Ils n'ont pas eu en commun le même statut socio-économique. Parce que Lydie est certainement très riche. Elle est même en tant que femme à la tête d'une maison qui est servie par les domestiques. Le geôlier, il est certainement plus bas que ça. Hein, de la classe moyenne inférieure. Et puis la fille esclave, elle est tout en bas de l'échelle. Elle est sans argent, sans droit, donc ils n'avaient pas ça en commun. Ils n'étaient pas du même sexe ou du même âge, ils ont eu peu à l'apparence en commun. Peu pour avoir, pour trouver de la communion entre eux. Mais voici une chose qu'ils ont eue en commun. Ils ont eu une communion dans quoi ? Dans l'évangile. Voyez ça, le verset 3 encore. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part ou de la communion que vous avez avec moi dans l'évangile. Dans l'évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, ils avaient cette communion. Donc, je veux que vous notiez trois choses, trois caractéristiques de cette communion. L'homme a eu toujours le désir de partager les choses en commun. Personne ne veut habiter tout seul, sans connaître autre personne. Mais qu'est-ce que c'est qu'ils partageaient ensemble? On voit trois caractéristiques ici, qui leur liaient ensemble, les liens communs. Et la première chose, c'est ce que je viens de noter, c'est que c'était centré sur l'Évangile. Leur communion, ce qu'ils partageaient ensemble, c'était centré sur l'évangile. Regardez-le dans le texte, le verset 5. « De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à, ou de la communion que vous avez dans l'évangile. » Donc l'évangile, mes amis, était la pièce maîtresse de leur communion ensemble. C'était l'évangile et l'évangile seul qui les liait ensemble. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, le fait qu'il est Dieu, qu'il est devenu homme, qu'il est mort pour les péchés, qu'il peut me sauver par la grâce, par l'intermédiaire de la foi, de partager ça ensemble, ça nous unit. Et écoutez ceci, la plus chère que quelque chose que vous partagez avec quelqu'un d'autre est à votre propre cœur, la plus chère est la communion entre vous deux. N'est-ce pas? Je vais le répéter. La plus chère que la chose que vous partagez en commun avec quelqu'un d'autre est à votre propre cœur, la plus chère est la communion entre ces deux personnes. C'est la différence entre ces deux hommes qui parlent de Dax, une ville qu'ils connaissent à peine et des gens qu'ils connaissent très peu. Ils partent comme des connaissances et pas plus. Hein, parce que Dax ne va pas vraiment les lier ensemble en tant qu'amis. C'est la différence entre ces deux hommes qui parlent d'une ville en France et deux hommes engagés cœur et âme dans une guerre qui se rencontrent pour la première fois derrière les lignes d'ennemis. Et là, immédiatement, ils sont comme des frères de sang. Ils se sont retrouvés. Pourquoi? Parce qu'ils sont engagés cœur et âme dans une guerre par amour pour leur famille, par amour pour leur pays. Ils sont prêts même à sacrifier leur vie pour la cause. Et voilà quelqu'un d'autre qui partage la même cause. Et c'est pour ça qu'ils sont immédiatement amis, comme frères. Ils se sont retrouvés. Vous voyez la différence? La plus chère que quelque chose que vous partagez en commun avec quelqu'un d'autre est à votre propre cœur, la plus chère sera la personne qui la partage en commun avec vous. C'est pour ça, en 1 Jean 3, la Bible nous dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que quoi? Parce que nous aimons les frères. Et celui qui n'aime pas les frères demeure dans la mort. » Vous voyez, si vous n'aimez pas les frères, c'est que vous n'appréciez pas ce que vous avez en commun avec ces frères. Et ça devient même une marque du salut, qu'on aime les frères, parce qu'ils sont frères en Christ. Alors qu'est-ce que c'est que nous avons en commun, qui nous lie ensemble? En quoi avons-nous la communion? Voici une communion dans l'Évangile. Donc l'Évangile, mes amis, doit être la pièce maîtresse, le point central de nos relations en tant que chrétiens, doit être mise au centre de nos rapports entre croyants. Alors je vais vous demander une question et posez-le dans vos propres cœurs. Pourquoi sentez-vous attiré vers certains croyants? Pourquoi aimez-vous parler avec certaines personnes après le culte? Est-ce que c'est parce que vous partagez un intérêt pour, je ne sais pas quoi, les sports ou les enfants ou certaines études? Vous avez en commun les mêmes douleurs, les mêmes rancunes, je ne sais pas quoi? Ou est-ce que c'est l'Évangile? Jésus-Christ? N'est-elle pas très révélatrice de l'état du cœur quand un jeune ou un étudiant ou une étudiante a plus en commun, c'est-à-dire il ou elle a une meilleure communion avec un ami du monde qu'avec un autre croyant? Ce qu'il partage dans la vie, il semble qu'il a plus en commun avec un non-croyant qu'un croyant. Ça nous dit quelque chose de l'état du cœur, n'est-ce pas? Alors je vous demande, mes amis, de chercher votre cœur. Est-ce que vous partagez avec nous Jésus-Christ en commun? Car la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord a-t-il entre Christ et Bélial, c'est le diable? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Il le dit fort, très fort, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communion avec les ténèbres et la lumière. Donc si vous marchez dans les ténèbres, un Jean vous dit, c'est que vous êtes des ténèbres. Parce que vous partagez ça en commun. Alors c'est quoi qui nous relie ou nous rapproche à d'autres? Est-ce que c'est parce que vous avez presque le même âge, statut social, astuce intellectuelle, prospérité économique, le même pays d'origine, des passe-temps en commun, des intérêts communs, toutes les choses que le monde dit vous rend compatible? Si vous voulez aller sur l'internet pour trouver un copain, une copine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous demander une tas de questions. Je vous assure, je l'ai pas fait, hein. Mais je sais que c'est comme ça que ça marche. Ils vont vous demander une tas de questions, et vous allez répondre oui, non, ce que j'aime pas, mes intérêts, mes passe-temps et tout ça. Et puis ils vont essayer de trouver quelqu'un qui est compatible, qui a les mêmes réponses. Et puis, on espère qu'il y aura l'amour. Parce que c'est comme ça. Si on partage des choses en commun, c'est qu'il y a souvent l'amour. Est-ce que Jésus-Christ est assez? Ça, c'est ma question. Est-ce que Jésus-Christ est assez? Notre communion que nous avons n'est pas basée sur aucune de ces choses. Et elle n'en a même pas besoin de ces choses parce que nous avons Jésus-Christ. Et c'est le seul lien qui va toujours durer. Le lien en Christ va toujours éternellement durer. Tous les autres vont être brisés. Il y a des gens partout dans le monde qui choisissent les églises aujourd'hui en raison du groupe des jeunes, en raison du programme pour leurs enfants, ou de la musique, ou des heures des réunions, pas trop tôt, n'est-ce pas? En raison de l'atmosphère, je ne sais pas quoi. Mais croyons-nous vraiment, mes amis, que le seul lien dont nous avons besoin afin de nous lier ensemble pendant l'éternité, et même ici sur Terre, un lien si fort que ça peut lier des personnes qui sont dans tous les autres domaines de la vie incroyablement diverses. Regardez ceux qui sont dans cette salle même. Nous sommes incroyablement diverses. Mais ça peut nous lier par un amour commun, une loyauté commune pour l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez, tout ce qu'on a besoin, c'est un seul intérêt, une seule vision partagée, une communion dans l'évangile. Et la plus chère, je vais le répéter, la plus chère que quelque chose que vous partagez en commun avec quelqu'un d'autre est à votre propre cœur, la communion que vous avez avec l'autre sera aussi plus chère. La communion fraternelle entre les chrétiens est donc un partage mutuel, une communion dans l'évangile. Vous partagez le même amour pour l'évangile, la même ardeur pour sa pureté, pour sa proclamation, partagez les mêmes estimes pour la vérité de l'évangile. Voilà, vous avez ça en commun. Vous avez l'évangile en commun et ça vous suffit. C'est une communion réelle dans l'évangile. Mais regardez maintenant la deuxième chose que nous notons au sujet de cette communion. Et c'est qu'elle était constante. Parce qu'elle existait depuis quand, verset 5 ? Regardez-le. Depuis le quoi ? Depuis le premier jour et jusqu'à quand ? Jusqu'à maintenant, l'heure où il écrit la lettre. Donc, c'est-à-dire que cette communion est constante. Pourquoi ? Parce que l'évangile ne change pas. Et si l'évangile est la pièce maîtresse, le point d'appui, si vous voulez, de vos rapports avec d'autres croyants, eh bien, vous savez quoi ? Votre communion va durer, va demeurer constante. Et c'est triste quand les chrétiens se disputent ou brisent la communion parce que ça signifie que l'évangile a perdu sa prééminence dans leurs relations les uns avec les autres. Il y a bien sûr des moments où nous sommes appelés même à interrompre la communion, mais c'est seulement quand quelqu'un a tordu l'évangile ou par leur vie ont déprécié ou ont maltraité l'évangile, mais l'évangile est toujours ce qui compte, pas nous-mêmes. Donc c'était constante. Et puis troisièmement, nous voyons que c'était non seulement constante, mais c'était démontré. Évident. Alors je me posais la question, comment encore ? Comment cet évangile s'est-elle démontrée ? Et je pense que nous conviendrons tous que cette communion se démontre verbalement, dans la parole. Il y a Paul qui parle ici, dans cette lettre. Et nous avons déjà parlé de ça. Vous savez ce que deux personnes ont en commun en écoutant leur conversation. Mon épouse et moi, nous parlons de presque tout. Pourquoi ? Parce que nous avons tout en commun. Avec le voisin, je parle du jardin. Et c'est tout ce que j'arrive à trouver pour parler au voisin. Parce que c'est tout ce que nous avons en commun. Le jardin, et ça s'arrête là. Et c'est triste. Donc je demande aux pères et aux mères, parlez-vous du Seigneur avec vos enfants d'une manière naturelle. Étudiants, parlez-vous du Seigneur avec vos amis. Avez-vous une communion dans l'Évangile avec vos amis qui s'expriment verbalement dans vos paroles. Adolescents, enfants, pouvez-vous parler naturellement du Seigneur à vos parents ou à vos amis ici à l'église? Parce qu'on ne peut pas interdire quelqu'un de parler de ce qu'il aime, n'est-ce pas? Donc il faut nous demander, est-ce qu'on aime le Seigneur? Ainsi la communion va se démontrer verbalement, mais je vous suggère que ce n'est pas la démonstration primaire de leur communion que Paul avait à l'esprit. Il ne pensait pas surtout de cette expression verbale de la communion, Et la raison pour dire cela, bon, se trouve même dans la traduction que nous avons français, mais se trouve dans le contexte de cette lettre, dans son entier. Paul a écrit cette lettre principalement pour leur dire merci. Et je veux que vous allez en chapitre 4, que nous avons lu ensemble tout à l'heure, et laissez-moi vous montrer pourquoi il leur disait merci. Regardez chapitre 4 de Philippiens, verset 10. Chapitre 4, verset 10. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Alors, il parle de quoi? Quand il dit, vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments. C'était quoi leur expression de leurs sentiments? Ben, ce qu'il leur remercie, c'est pour un don financier. Et ça se voit dans le verset 15. Regardez le verset 15. Il parle d'un don financier, c'est apparent là, verset 15. « Vous savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. » Vous voyez, il parle d'un don financier, ce qu'il donnait et recevait, verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises. De quoi pouvoir à mes besoins. Donc on est tous d'accord, il parle d'un don financier. De quoi pouvoir à ses besoins. D'accord, regardez le verset 15 encore. Aucune église, là au milieu du verset, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Cette phrase, entra en compte. Vous savez ce que c'est? C'est le verbe du mot communion. Aucune église est entrée en communion avec moi en ce qui concerne les dons financiers. Mais vous avez pourvu à mes besoins. Vous avez entré dans une communion avec moi. Vous m'avez offert ce don. Donc, quand il dit dans le chapitre 1, que vous êtes entrés dans une communion depuis le premier jour jusqu'à maintenant, il leur dit dans le verset 4, depuis Thessalonique, qui était la ville qu'il a visitée juste après Philippe, de quoi pense-t-il ici? Il pense de leurs dons financiers. Donc on peut dire deuxièmement que cette communion est démontrée pas seulement verbalement, mais également comment? Comment? Financièrement. Financièrement. Ah, on n'aime pas parler de ça, hein. C'est pourquoi en Romains 15, ne cherchez pas, mais les chrétiens de la Macédoine font une collecte d'argent pour aider les pauvres à Jérusalem, et la Bible dit qu'ils entrent en communion avec eux. Et c'est étonnant de voir combien de fois le mot communion dans le Nouveau Testament est relié au sujet financier. C'est un don appelé la communion, souvent. Et ce verset, dans le chapitre 4 et dans le chapitre 1, est une de ces fois. Et c'est pourquoi il serait aussi précis de traduire ce mot, une participation, ou comme on l'a même dans le second, la part, une part que vous prenez. Verset 5 encore du chapitre 1, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'est une communion, mais une communion qui s'est démontrée par une offrande. Donc, quand nous mettons d'argent dans l'offrande le dimanche matin, et que c'est utilisé pour payer les frais pour cette salle, pour cette église, pour les missionnaires qu'on soutient, ou pour les pasteurs, ou pour d'autres, ou pour les efforts d'évangélisation, nous entrons dans une communion dans l'évangile avec cette église, ou avec ces personnes. Nous entrons en communion avec eux. C'est marqué même dans la Bible. Nous devenions participants dans l'évangile avec eux. Nous partageons avec eux l'effort de l'évangile. Nous prenons part à l'évangile. De la même façon que l'église ici à Philippe a participé avec Paul, nous pouvons participer avec l'église ou d'autres chrétiens en leur donnant d'aide financière. Cette part à l'évangile, cette communion est plus que parole. Il implique votre portefeuille. Alors je vous demande, et même aux étudiants, est-ce que vous participez à l'effort évangélique? Est-ce que vous prenez part? Si vous ne prenez pas part, c'est vous qui manquez la bénédiction de cette communion que nous avons dans l'évangile. Mais continuez, cette communion était plus qu'une participation verbale et une participation financière. Regardez le chapitre 4 et le verset 3, où il dit, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. » Je suis en Philippiens 4, verset 3. « Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dans les noms sont dans le livre de vie. » Il parle encore de la communion, mais ce n'est pas démontré verbalement, financièrement, mais ici nous le voyons que c'est démontré pratiquement, ou on peut mieux dire démontré dans des œuvres pratiques. Vous voyez, elles ont combattu pour l'évangile avec moi. Et puis il parle d'autres qui sont compagnons d'œuvre. J'espère que vous commencez à voir que cette idée de communion, cette participation, le fait de prendre part à l'évangile, est centrée sur l'évangile, mais elle implique l'être entier. Je prends part à ce que Dieu fait dans le monde. J'ai de la communion avec d'autres dans l'évangile par mes paroles, par mon argent, mais avec aussi mon travail, mes œuvres pratiques. Je combats pour l'évangile avec eux. Je deviens un compagnon d'œuvre avec ces personnes. Il y a beaucoup qu'on pourrait dire sur ce sujet. Pourtant, il y a un aspect de plus mentionné dans cette lettre que je voudrais que vous voyez. Et ça, c'est dans le chapitre 3. Et regardez le verset 10. Il parle encore de la communion avec Jésus-Christ. Et Paul dit dans ce verset, chapitre 3, verset 10, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, quel est le prochain mot ?» La communion de ses... Ah, vous êtes prêts pour ça ? De ses souffrances. De ses souffrances. C'est exactement le même mot. Paul parle d'une participation, de prendre part dans les douleurs de Christ. De prendre part à la souffrance de Jésus. Une communion démontrée même dans la souffrance. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils veulent aller jusqu'à ce point, mais pas plus loin. Ah oui, je peux avoir la communion avec les chrétiens, je suis content à parler de Dieu, je connais beaucoup de la Bible, j'aime bien démontrer ma connaissance de la Bible. Et oui, je peux donner quelques sous de temps en temps, s'il faut. Et oui, je peux m'engager de temps à autre pour faire quelque chose pour l'Église. Ah mais si la persécution arrive... Si on va se moquer de moi, si mes amis avec qui j'ai en commun plein de choses vont voir que j'ai plus en commun avec les chrétiens qu'avec eux, alors si ça va entraîner la souffrance ou la douleur, ah non, là j'y vais pas. Mais Paul dit, je veux connaître même la communion de ses souffrances. Pour Paul, ses propres souffrances étaient un honneur. Hein? Il était dans une communion fraternel et si proche avec Christ qu'il ne voulait pas seulement connaître la puissance de Jésus-Christ, tout le monde veut connaître ça, mais aussi il voulait connaître les souffrances qu'il supporterait à cause de sa communion avec Christ. Il était si proche de quelqu'un. Si vous aimez quelqu'un jusqu'à ce point-là, peut-être un mari ou une femme avec l'époux ou l'épouse, vous les aimez tellement et puis ils tombent malades. Ils ont le cancer. Et vous avez dans votre cœur même, on ne peut pas l'expliquer, mais vous avez un désir même de pouvoir partager cette douleur avec eux. Vous les aimez tellement, vous voulez même si c'est une douleur, vous voulez la partager, vous voulez connaître un peu de cette souffrance, parce que vous les aimez. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus à ce point-là? Il est toujours moqué. Il est toujours trahi par les hommes. Est-ce que vous l'aimez tant que vous le voulez même partager dans les souffrances qu'il reçoit de la part des hommes? Il y a d'autres choses sans doute qui pourraient être mentionnées, mais le point, c'est ceci. Notre communion dans l'évangile n'est pas quelque chose qui se fait à 10h30 le dimanche. Ça implique notre être entier. Donc si l'évangile est mon amour, ma passion, je prendrai part à l'évangile avec mon être entier, avec toute ma force, avec tout mon cœur. Je donnerai mon argent, je donnerai mon temps, je donnerai moi-même et je donnerai, si je dois, même ma vie. Alors qu'est-ce que l'évangile signifie-t-il pour vous? Prions ensemble. Seigneur, nous avons vu l'importance de l'Évangile dans la vie de Paul et des Philippiens. Et nous voulons que l'Évangile ait cette même place dans nos vies. Et nous savons que les affaires de la semaine, les études, le travail, la famille, entrent si facilement dans nos vies pour repousser, même nous force à oublier souvent Jésus-Christ et la bonne nouvelle qui est en lui. Oh, pardonne-nous. Pardonne-nous. Aide-nous à le connaître. Aide-nous à l'aimer. Aide-nous à être prêts même à sacrifier nos vies pour l'Évangile et pour Jésus-Christ. Amen.